Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 17h en temps univers, 17h pardon, en Martinique et en Guadeloupe, mais oui, chez Cazé et les membres d'ExPK, 21h en temps universel et 23h à Paris. Et le journal est présenté par Stéphane Geneste. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Claudie, bonsoir à toutes et à tous. C'est la une de cette édition, évidemment, une large page consacrée à l'élection présidentielle américaine. Les bureaux de vote sont ouverts. Des dizaines de millions d'Américains appelés aux urnes pour décider qui de Kamala Harris ou de Donald Trump va entrer à la Maison Blanche, scrutin sous haute tension et aux enjeux historiques pour les États-Unis tout comme pour le reste du monde. Et puis une semaine après les tragiques inondations qui ont fait au moins 219 morts en Espagne, le gouvernement dévoile un plan d'aide de plus de 10 milliards d'euros. C'est donc le jour J. Aux États-Unis, les Américains se rendent aux urnes pour l'élection présidentielle. Le suspense est à son comble. Qui, de Donald Trump ou de Kamala Harris, sera envoyé à la Maison Blanche? La plupart des bureaux de vote ont ouvert alors que plus de 82 millions de personnes ont déjà voté par anticipation dans un scrutin qui s'annonce très serré. On retrouve sans plus attendre notre envoyé spécial au QG de campagne de Donald Trump. C'est en Floride, à Palm Beach précisément. Vous venez d'y arriver, David Thompson. Quelle est l'ambiance sur place?
Oui Stéphane, les portes du Convention Center de Palm Beach ouvrent tout juste. Les partisans de Donald Trump arrivent les uns après les autres avec leurs casquettes rouges évidemment. Le Secret Service chargé de la sécurité de l'ex-président Trump est en train de passer l'endroit au peigne fin évidemment après ces deux tentatives d'assassinat durant cette campagne absolument folle. Les services de sécurité sont absolument sur les dents. Suspense immense évidemment. Donald Trump a voté ce matin ici. Physiquement dans la ville de Palm Beach. Suspense immense quant au résultat, bien sûr, très serré, on le sait. Deuxième raison de ce suspense, évidemment, quelle sera ce soir la réaction de Donald Trump qui doit s'exprimer ici au Convention Center de Palm Beach? Est-ce que Donald Trump va revendiquer la victoire quels que soient les résultats? C'est ce que craint la campagne de Kamala Harris et c'est aussi ce que pensent tous ses partisans parce que pour eux, hein, je suis pu leur poser la question à quelques-uns d'entre eux tout à l'heure, la défaite n'est pas une option. Une dame tout à l'heure me disait, si Donald Trump ne gagne pas, c'est que quelque chose nous tournons notre rond et nous perdrons alors notre pays.
David Thompson en direct de Palm Beach en Floride au QG de campagne de Donald Trump. Merci beaucoup David. Le dénouement donc de ce scrutin à suspense devrait se jouer dans cet état dit pivot, les fameux swing states où l'indécision est reine et qui peuvent basculer dans un camp ou dans l'autre. Parmi ces états figure l'Arizona, l'état où les résultats donnant la victoire à Joe Biden en 2020 ont été les plus contestés par le camp Trump. La fin de campagne tendue fait craindre un scénario identique cette année. Reportage d'Abla Jounaïdi à l'ouverture d'un bureau de vote de Mesa, c'est dans la banlieue de Phoenix.
Le jour du vote est arrivé, c'est la fin d'une campagne tendue en Arizona et dans le pays en général. Anne et Lisa, un couple homosexuel, tenaient à être les premières dans la file.
I feel like...
Je pense que la lumière triomphe toujours. C'est ce qui nous guide. Toute cette haine, toute cette division prendra fin. L'espoir, l'amour et le respect reviendront.
C'est vrai, c'était très difficile pendant cette campagne de prendre sa part. On essaye de prendre de la distance, mais on veut aussi parler à tout le monde, quelles que soient ses opinions.
Quatre rangs derrière elle, Rachel est venue avec sa mère.
I'm hopeful for Trump, but we'll see. So.
J'espère que ce sera Trump, mais on verra. Je voulais venir voter en personne, c'est mon opinion. Je ne veux pas que mon bulletin de vote se retrouve dans une boîte quelque part, puis dans une machine. On a décidé ça avec ma mère. Je veux voir les résultats aujourd'hui.
Beaucoup d'électeurs pro-Trump sont allés voter en avance, pourtant.
C'est ce qui me rend nerveuse, parce que ça peut facilement être manipulé.
Malgré les efforts des autorités pour rendre le processus le plus fluide et transparent possible, les soupçons de fraude se font toujours entendre en Arizona. Abla Jounaïdi, Mesa, dans la banlieue de Phoenix, RFI.
Et les candidats, eux, ne font plus campagne, mais on le disait avec David Thompson, ils continuent de s'exprimer. Donald Trump se dit, lui, très confiant en sa victoire. Il affirme qu'il va reconnaître sa défaite, si défaite il y a, et si seulement l'élection est juste. Fin de citation. Kamala Harris, la démocrate, elle, appelle les Américains à sortir voter. Un scrutin, on le disait, très tendu. Un certain bureau de vote de l'État de Géorgie ont dû fermer temporairement leurs portes en raison d'alerte à la bombe. Tout est rentré dans l'ordre, nous fait savoir notre envoyé spécial spécial dans cet État. Et cette élection présidentielle américaine est suivie donc partout sur la planète, tellement l'impact politique et économique risque de peser sur le reste du globe. Et cette question, qu'en est-il du continent africain? Eh bien, pour Kedibone Fago, professeur de sciences politiques à l'Université du Nord-Ouest en Afrique du Sud, les Africains suivent ce scrutin avec beaucoup d'attention, car les répercussions économiques seront importantes pour leur pays.
Si on imagine que Donald Trump devient président, cela aura forcément une implication importante. Rappelez-vous, lors de sa première élection, il s'est beaucoup concentré pendant son mandat sur l'économie américaine, au point où certaines multinationales américaines, comme par exemple Ford, ont dû quitter l'Afrique du Sud. À partir du moment où les Américains se concentrent sur leur pays et oublient leur rôle et responsabilités internationales, cela pèse forcément sur les pays qui ont besoin d'investissement. Et puis imaginons que Kamala Harris gagne. Cela deviendrait très intéressant. Cela consoliderait les relations entre les États-Unis et de nombreux pays en voie de développement, notamment en Afrique. N'oublions pas qu'elle est venue en Afrique alors que lui n'est jamais venu. Et c'est important parce que cela montre l'intérêt qu'ils ont pour le continent. Une simple visite de Kamala Harris, cela envoie un message fort sur comment elle compte travailler et soutenir les pays africains.
Des propos recueillis par Alexandra Brangeon pour RFI. Et de ce scrutin américain, on en parle évidemment tout au long de la soirée et de la nuit. Sur votre antenne, rendez-vous toutes les heures pour vos rendez-vous d'information avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux et nos experts. Et surtout, édition spéciale à partir de 4h, heure de Paris, 3h, temps universel tout à l'heure. Et puis, vous pouvez suivre en temps réel cette journée électorale aux États-Unis sur notre site RFI.fr. 6 jours après la catastrophe qui a frappé la région de Valence en Espagne, le bilan est une nouvelle fois revu à la hausse avec 219 victimes. Les autorités affirment à l'instant que ce soir, ce sont 89 personnes qui sont toujours portées disparues. Mais l'heure est à la polémique et au règlement de compte dans la péninsule ibérique. Le gouvernement central débloque 10,6 milliards d'euros pour aider les sinistrés. Réponse aux critiques du chef de la région de Valence, Carlos Mazón, qui accuse certains organismes de l'État central de défaillance, Romain Lemaresquier.
Alors que sur place, la situation reste toujours compliquée pour les habitants touchés, sans parler des familles des victimes et des personnes toujours portées disparues, certains responsables politiques semblent déjà vouloir régler des comptes. Il faut dire que la colère anime nombre de personnes. Dimanche dernier, lors de la visite du roi Philippe VI et du chef du gouvernement Pedro Sanchez, des habitants à bout de nerfs avaient jeté de la boue sur les deux hommes et même porté un coup à Carlos Mazón, le président de la région de Valence, qui les accompagnait. Pedro Sanchez avait dû quitter les lieux sous les insultes, alors que Philippe VI et la reine Laetitia étaient restés sur place pour tenter de discuter avec des victimes. Suite à cet épisode, la gratitude de Carlos Mazón envers les autorités s'est transformée en reproche. Le président de la région de Valence a littéralement changé de discours, accusant désormais l'armée espagnole d'inaction ou encore les organismes qui gèrent les alertes météo d'avoir désactivé les systèmes. Carlos Mazón, membre du Parti Populaire, formation conservatrice, reprend ainsi le discours de son parti et de son leader Alberto Núñez Feijóo. Pendant ce temps, 6 jours après la catastrophe, les secouristes et les habitants de la région de Valence tente toujours de retrouver des disparus.
Les explications de Romain Lemaresquier pour RFI. En Israël, du mouvement dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il allait mouger ce soir son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Benjamin Netanyahou qui justifie cette décision par leurs divergences trop nombreuses sur la conduite des guerres dans lesquelles Israël est engagé. Le ministre d'extrême droite, Ben Gvir, salue cette initiative, expliquant que le chef du gouvernement israélien avait bien fait, fin de citation. Des centaines de manifestants se sont rassemblés ce soir à Tel Aviv pour dénoncer ce limogeage. Ils exigent que le gouvernement israélien trouve un accord avec le Hamas pour libérer les otages encore retenus dans la bande de Gaza. Et c'est dans ce contexte que l'armée israélienne a mené une frappe sur un immeuble dans le sud de Beyrouth ce mardi soir. 15 personnes y ont été tuées. L'actualité en France, c'est que le Premier ministre demande des comptes à 2 entreprises historiques du pays, au distributeur Auchan et au groupe automobile Michelin. Et Michel Barnier qui affirme vouloir savoir ce que ces deux groupes ont fait de l'argent public qu'on leur a donné. Michelin qui a annoncé ce mardi son intention de fermer 2 établissements où travaillent près de 1300 salariés. Auchan, pour sa part, a décidé de supprimer pratiquement 2400 emplois via notamment la fermeture d'une dizaine de magasins. Et puis, il y a du football dans l'actualité ce soir. 4e journée de phase de poule de la Ligue des Champions. 2 clubs français en compétition. Lille qui reçoit la Juventus de Turin. 49 minutes de jeu, ce sont les Lillois qui mènent 1-0. Et Monaco est en dépassement à Bologne. 50 minutes de jeu, score nul et vierge, 0-0. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 22h10 ici à Paris.